entre du mouvement et au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. En marge de la juste cérémonie organisée le 11 novembre dernier pour rendre hommage aux soldats congolais de la force publique qui ont participé à la première et deuxième guerre mondiale, l'Union nationale des anciens combattants, UNACO en sigle, a plaidé pour une reconnaissance par les autorités congolaises et belges des mérites de ces vaillants combattants. Nous en parlons donc dans cette émission avec comme question principale, comment réagissez-vous par rapport à ce plaidoyer? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien appelez-nous au 081 890 6315 pour votre participation en direct. Nous sommes tous là pour vous tenir compagnie. Paul Badianiam est à la technique. César Julie Bongonda réalise ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous avons en ligne Monsieur Mohamed Boulet. Honorable Boulet, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, J.R.
Voilà, vous avez suivi, l'actualité comme nous, cette cérémonie qui a été organisée pour rendre hommage aux soldats congolais de la force publique qui ont marqué, qui ont participé donc à la première et deuxième guerre mondiale. Alors, dans cette émission, nous relançons les débats sur la prise en charge de, au fait, parce qu'il n'y a pas encore des survivants, en tout cas, la prise en charge donc, qui constituera donc au mérite, hein, à la reconnaissance des mérites de toutes ces personnes, ces vaillants combattants. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette thématique?
Merci beaucoup, parce que j'étais invité. Nous savons que le 11 novembre de chaque année, on célèbre cet armistice-là pour la fin de la Première Guerre mondiale. Cette guerre qui a fait beaucoup de morts parmi les civils et surtout parmi les militaires. Et cette guerre aussi, nous devons reconnaître que la force publique, à travers nos ancêtres qui ont participé à ça, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a aucun survivant, et c'est y compris les porteurs, parce qu'il n'y avait pas que des militaires, il y avait aussi des porteurs congolais. Et maintenant, il est difficile de parler avec concision, précision. Nous aimerions, comme l'a dit le professeur Elikian Bokolo, et peut-être aussi le professeur Naïwel, aider les forces armées à avoir ces historiens pour écrire la vraie histoire de nos forces armées, depuis la force publique, avec les différentes mutations, jusqu'à ces jours, nous avons les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est bien vrai, ils ont le mérite d'être pris en charge, parce que l'exemple que donnent certains pays, dont la France, dont certainement les autres pays aussi, qui se sont servis des troupes africaines, et en ce qui nous concerne la Belgique, avec les troupes composées des Congolais, et on n'a pas senti une bonne prise en charge, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu dresser la base des listes de nos vaillants arrière-grands-parents qui sont morts, et j'ai trouvé sur la liste des noms comme Sergent Moquet, comme Tétélé, par exemple, dont un des camps militaires de Kisangani porte son nom. J'ai trouvé aussi des noms comme Ndoromo, dont le camp, certainement, de Bouné porte son nom. Et bien entendu, Yoka, qui n'était autre que le père du colonel breveté d'état-major, Yoka, qui aujourd'hui est à la retraite. Et donc, parmi ces éléments de la Première Guerre mondiale, la dernière à rendre l'âme, c'était la veuve du sergent Yoka. Je crois que cela ne peut pas venir si notre gouvernement, qui a la charge de gérer au quotidien les relations internationales avec le pays, de monter un dossier pour poser les problèmes de manière simple, précise et claire, pour qu'un geste soit fait par la Belgique. Et c'est cela le devoir du gouvernement congolais que nous encourageons. Les champions qui est resté, ou de ceux que nous avons vus vraiment avec la joie, d'autres avec de peur, avec leurs poitrines médaillées. Mais ils ne sont plus nombreux. Et comme tous les ans, moi qui ai l'occasion de participer, de répondre à cette invitation, c'est la même requête, la prise en charge. Certainement, le statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a été promulgué par le chef de l'État, prend en compte une certaine préoccupation par le gouvernement congolais, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que le gouvernement fasse aussi des efforts pour trouver une solution à l'amiable, c'est un droit. Si alors leurs confrères, leurs compères, donc leurs compagnons belges ont bénéficié de ces avantages, mais des droits, ils étaient tous sur le même front. Je vis là-bas les photos qui sont exposées des gens qui ont fait des milliers de kilomètres à pied, pieds nus, pour que plus tard les sandales et encore plus tard les chaussures et les uniformes convenables puissent leur parvenir. Donc, je crois qu'il est bon, il n'est que temps pour qu'on puisse régler ces problèmes-là. Même à titre posthume, ce sera un signal fort et que nous puissions également avoir des historiens militaires qui puissent écrire notre histoire et disposer des musées pour immortaliser le peine qu'ils ont fait et cette fierté-là.
Alors, mis à part le musée, comme vous venez de le dire, c'est vrai que le secrétaire général aux anciens combattants a reconnu tout de même que leur mémoire mérite d'être honorée. Vous pensez que, mis à part les archives, quelle peut être une autre façon de reconnaître le mérite de ces vrais combattants par le gouvernement congolais d'abord?
Je l'ai dit comme le gouvernement, il faut restaurer d'abord ces monuments-là. Parce que quand vous arrivez à Faradje, par exemple, on vous dira que les moellons qui ont constitué pour qu'on puisse ériger ces monuments-là, chacun a amené un morceau de pierre de là où sur leur chemin de retour. À partir du Soudan, à partir de l'Ouganda et tout ça. Et aujourd'hui, certains de ces monuments-là sont dénaturés. Quand vous arrivez à Bouta, il y a aussi un monument pour ces vaillants combattants qui aujourd'hui sont dénaturés. Il faut d'abord commencer par restaurer cela. Commencer aussi par restaurer les camps qui portent les noms de ces vaillants. J'ai cité les camps qui sont les Kisangani. J'ai cité les camps d'Oromo et bien d'autres. Et ici, au camp Kokolo, il y a des avenues, Sergent Moquet et tout ça qui portent les noms de ces militaires-là. Et donc, il faudrait enseigner cette histoire à nos enfants, à partir des écoles primaires, créer même des académies. Et peut-être, en plus de cela, penser aussi à ceux de nos combattants d'aujourd'hui, qui, par le fait de guerre, on les voit mutilés, mais penser à créer une école que j'appellerais école de pupilles, qui puisse rassembler ces enfants orphelins, parfois des pères et des mères, les enfants aussi de certains fonctionnaires, des médecins. Il y en a eu qui sont morts comme ça, dont les enfants ne sont pas pris en charge. Et donc, le sens à donner à ces écoles de pupilles serait pour que nous évitions d'avoir les enfants de la rue. Et donc, tout cela ne peut pas se faire comme par baguette magique. Il faut monter des projets, il faut faire des programmations, des projections, d'une bonne planification pour prévoir que dans le budget qu'il y ait des ressources, sinon chercher l'autre moyen d'avoir ces ressources par des lois de programmation pour pouvoir accompagner. Il faut commencer de quelque part, par les choses les plus simples à faire. C'est d'abord réécrire notre histoire. Et petit à petit, commencer maintenant à monter pour que nous vivions l'histoire de notre pays comme sous d'autres cieux. Ce qui est normal.
Alors, on a l'impression, honorable Boulet, que juste après la célébration de cette journée, c'est comme si on revient à la case de départ, on oublie vite tous les plaidoyers faits, on oublie vite tout ce qu'on est en train de penser, de projeter pour le bonheur, si pas de ces quelques vaillants combattants qui sont encore en vie, parce que selon les propos du président de l'UNACO, il en reste pour la Deuxième Guerre mondiale au moins 4 qui sont encore en vie et 2 qui sont déjà malades. Voilà, donc pourquoi ne pas donc leur réserver un mérite dû à leur rang.
Mais écoutez, j'ai suivi le vice-premier ministre et ministre en charge de la défense des anciens combattants réagir. Tout comme le professeur Elikambo Kolo, tout comme le professeur Ndaïwal. que nous avons l'impression, quand le vice-premier ministre a dit que quand il est entré dans la salle, on constate tout de suite que les gens ne sont pas intéressés à notre propre histoire, à l'histoire de notre armée. Ça, c'est bien vrai, parce qu'on n'en parle plus. Et dans les publications, il n'y en a pas. Ceux qui pourraient mieux écrire cette histoire-là, ce n'est que ceux qui, comme moi, ont fait ce métier-là, mais qui ont aussi l'amour de transmettre leurs connaissances en laissant des supports que les générations à venir pourraient lire pour voir et peut-être aussi dans nos académies militaires trouver des sujets, des fins de cours qui puissent intéresser notre histoire militaire. Ce n'est que de cette façon-là que cette flamme-là de notre histoire, en commençant par la force publique, ne pourrait s'éteindre. Et donc, tout ça aussi, dans le cadre, j'imagine bien, de la nouvelle citoyenneté aussi, il faut inclure ça de manière globale dans ces programmes-là. Dans la formation, en commençant par les troncs communs, dans les centres d'instruction, dans les écoles militaires et dans les autres études militaires à l'académie, et que nous puissions formellement faire un programme qui puisse prendre en compte tout cela, et comme c'est prévu dans les statuts, et bien sûr de manière ordonnée, de manière que la formation qui soit assumée soit sanctionnée par de toutes académiques y afférentes, et que pour cela, le ministère de l'enseignement supérieur universitaire doit pouvoir donner son quitus sur l'initiative des programmes qui viendraient de son collègue de la Défense nationale. Ou pourquoi pas aussi pour certaines écoles de niveau plus bas, avec toute la collaboration gouvernementale du ministère de l'Éducation, pardon, de l'enseignement primaire, scolaire, professionnel. Mais ce n'est que de cette façon-là qu'il faut avoir, disons, un bloc programme qui puisse adapter, compte tenu de nos réalités, et tenir compte des enseignements tirés de toutes ces guerres, même certaines fratricides, et même les guerres d'aujourd'hui qui tendent vers le terrorisme avec des groupes armés, tout ça, il faut faire des études. Il faudrait qu'au niveau du ministère de la Défense, au niveau des états-majors, qui aient des bureaux stratégiques pour faire des études stratégiques. Et je crois, ces bureaux existent au niveau des ministères, au niveau des états-majors, mais c'est de la matière. Il faut des recherches, il faut nos propres chercheurs, et se faire aider pour trouver ces archives et pouvoir les mettre à jour de façon que, à des événements comme ça, qu'il y ait des séminaires qui puissent s'intensifier et continuer, pas seulement fêter une journée et oublier, même comme l'exposition est faite là-bas, mais il y a trop peu qui vont pour visiter. Il y a trop peu d'écoles qui organisent alors pour aller voir cette histoire, pour attirer, pour intéresser, pour capter l'intérêt de notre jeunesse à connaître vraiment son histoire. Il y a des rues, des avenues ici qui portent des noms dont on ne connaît pas la signification. C'est pour immortaliser les campagnes gagnées ici et là pendant cette campagne militaire.
Général Boulay, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps d'ouvrir les standards pour accueillir Franck qui est à Vienne et puis Victor qui est à Kindu. Franck, gardez la ligne. Nous rappelons à nos auditeurs qui viennent à peine d'arriver sur les ondes des Radio Capi que vous êtes bel et bien dans l'émission Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen, 081 890 63 15 pour votre participation en direct.
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité et à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Quel est votre point de vue par rapport à cette thématique?
Merci beaucoup pour ce sujet hautement historique. L'histoire des hommes, faite par eux, doit être comprise par les mêmes hommes, doit être valorisé par eux-mêmes afin de tirer des leçons utiles pour l'avenir de ces hommes. Donc, nous, peuple congolais, avons tout le temps, avant toutes les obligations citoyennes pour écrire aussi certaines pages sur la noblesse de l'intégralité de notre histoire. Et ne peuvent le faire que ceux qui en ont le sens. Même ici, en Occident, je me réfère surtout en Allemagne et en Autriche, à partir de la deuxième semaine du mois de novembre, Il y a des cérémonies historiques organisées ici et là à l'intention de tous ces vaillants combattants de la Deuxième Guerre mondiale ou des deux guerres mondiales. Ceux qui sont encore en vie constituent des bibliothèques, car parfois ils sont associés à des tels forums pour s'adresser à la seule jeunesse. Et on peut aussi dire, nous le savons tous, que dans le monde, partout dans le monde, les droits des militaires ayant participé dans des guerres sont respectés. Nous pouvons que saluer favorablement, on ne peut qu'encourager cette initiative, on ne peut que militer pour que les droits de nos papas, toutes leurs prérogatives, puissent aussi vraiment être garanties. Si la France le fait pour l'Algérie, pourquoi la Belgique ne le ferait-elle pas aussi pour nos soldats qui ont combattu avec leurs gens là-bas? Parce qu'en Belgique, moi je sais personnellement que le droit de ces soldats belges sont jusqu'à présent garantis. Mais quelque part, nous devons aussi décrier l'existence d'une certaine injustice sociale. On vous envoie à bien aller combattre au front au nom de tel État. À la fin de la guerre, on ne reconnaît que le mérite d'une catégorie de combattants. Là, je crois que ça revient aussi à nos politiciens, à nos responsables politiques, de pouvoir encore dialoguer avec le gouvernement belge. Donc la RDC, à l'époque, n'était pas vraiment partie prenante à la guerre comme État ayant des conflits personnels, mais au moins elle a participé à côté de la Belgique. Mais pourquoi devons-nous maintenant assister à cette situation? Les soldats belges qui sont encore en vue, leurs droits, leurs prérogatives sont garantis par l'État belge, mais les soldats congolais qui ont combattu pour la même Belgique, ils croupissent là dans certains quartiers de la capitale, dans certaines villes. Il y en a qui sont même tombés dans des oubliettes. Je trouve que c'est vraiment le temps de penser à ce genre de personnes, et on ne peut pas seulement militer pour une catégorie, on milite pour que leurs droits puissent être reconnus. Donc on peut même penser à les immortaliser. Il y a des avenues qui ont encore des noms de gens qui n'ont vraiment rien fait pour ce pays. Ne pouvons-nous pas aussi penser à ces gens-là pour qu'on puisse aussi les immortaliser en donnant le nom de certaines avenues à ces combattants, pas seulement dans la ville province de Kinshasa, même à l'intérieur du pays.
Voilà, vous avez suivi notre invité tout à l'heure, Franck, qui parlait de quelques monuments qui ont été érigés à travers le pays. Je crois que si jamais les autorités pourraient multiplier ces genres d'initiatives, ça pourrait aider les générations futures. C'est ce qu'a d'ailleurs souhaité le général Sassa, secrétaire général aux anciens combattants, lors de cette cérémonie, qui a en fait demandé que, disons, on puisse... disons avoir une mémoire méritée pour ces vaillants combattants. Voilà. Donc merci beaucoup Franck d'avoir appelé les Viennes. Alors on va prendre Witok qui est à Kindu. Witok, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, vous nous avez écrit, vous avez exprimé votre déception en disant que deux fois vous n'êtes pas sélectionné. Alors c'est la première fois que vous intervenez dans cette émission. Quel est votre point de vue par rapport à cette thématique? Mais tout en soulignant que voilà, donc nous faisons la sélection par rapport à l'arrivée de demandes ou de l'enregistrement des uns et des autres par rapport à l'intérêt que vous accordez au thème. Et je crois que si nous c'est arrivé parfois de ne pas vous programmer. Bon, voilà, c'est indépendamment de notre bonne volonté. Ah oui, donc aujourd'hui, vous avez été parmi les premiers, donc vous êtes sélectionné.
Oui, voilà, avant d'emboîter les pas, je dis bravo et félicitations à tous ces voyants soldats qui ont combattu à la guerre mondiale, la première et la deuxième. Mais dès l'entrée du jeu, je dis que selon la notion que j'ai, la mission des soldats est de défendre l'intégrité nationale et la sécurité des frontières. Mais pour ce qui est des cas d'espèce, les voyants soldats ont combattu pour l'avantage de la Belgique. Et dans un premier temps, le gouvernement congolais est obligé de collaborer avec celui de la Belgique pour venir en aide les voyants soldats qui ont combattu à l'avantage de la Belgique. Mais à cela, nous ne pouvons pas dire que immortaliser ces voyants soldats est mal, comme l'indiqué l'a souligné, nous devons les immortaliser. Voilà là où les écrivains, les poètes doivent exprimer leur capacité pour immortaliser ces gens-là qui ont fait des mérites de notre histoire ici en République démocratique du Congo. Mais ce que nous devons le dire aussi, c'est peut-être de prioriser la nécessité majeure de la population congolaise. Mmh. Nous ne devons pas seulement les immortaliser, mais aussi prendre la question majeure que la République démocratique du Congo doit bénéficier actuellement. D'abord, nous ne pouvons pas dire qu'un budget soit spécialisé pour les immortaliser pendant que les ventres des Congolais n'ont rien. Voilà pourquoi moi j'aurais à dire à ceux là qui sont encore vivants et à leur famille, c'est encore apaisé, le temps viendra, que le gouvernement soit stable et puisse mettre en œuvre d'abord la question majeure de toute la population congolaise, surtout celle basée au social.
Voilà, vous avez suivi certains observateurs qui pensent que aujourd'hui, en tout cas, la reconnaissance des mérites de ces vaillants combattants doit d'abord être l'affaire des Belges et non des Congolais.
Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'avis par rapport à cette opinion. C'est voilà pourquoi je me suis dit, le gouvernement congolais doit collaborer avec celui de la Belgique pour honorer ces soldats-là qui ont fait ce que la Belgique soit aujourd'hui en paix. Et toute l'intégrité nationale belge soit maintenue telle qu'elle est aujourd'hui.
Mmh.
Voilà pourquoi je me dis, le gouvernement Matata peut toutefois collaborer avec celui de la Belgique afin de venir en aide ces voyants congolais qui souffrent actuellement, or qu'ils ont défendu la Belgique à l'époque.
Merci beaucoup, Wicot, d'avoir appelé de Kindu. On va prendre Cédric qui est à Isiro. Cédric, bonjour. Cédric, vous êtes avec nous? Voilà, on a un petit souci avec Cédric qui venait à peine de nous appeler. On va lire quelques messages avant de retrouver Cédric. Il y a Grace Guilassé de Mbandaka. C'est aujourd'hui que l'État congolais ressuscite, car il y a plusieurs dizaines d'années passées, où était-il avec cette aventure? Et il va le faire une fois pour toutes, ça ne sera pas continuel. Et aussi dans cette petite reconnaissance, longuement oubliée, nous allons écouter encore des noms payés, mais c'est quand même encourageant. Voilà, et puis il y a Wicot, qui nous avait également écrit avant d'intervenir dans cette émission, qui dit, pour le cas d'espèce, il faut juste augmenter la rémunération de ceux qui sont encore en vie. Moudadi Santo Guilano, Saïdi de Nairobi, dit ceci, ce débat apportera à ces vaillants combattants quand même cette reconnaissance des mérites et ça pourrait aider même leur famille à se retrouver. Anderson Adéré de Simé de Goma, bien sûr qu'on doit les honorer, mais pourquoi ne pas songer aux combattants d'aujourd'hui qui gagnent 50 000 francs congolais par mois avec des enfants dans une bâche dans nos camps. Cet argent débloqué pour la cérémonie doit être utilisé pour construire au moins deux pavillons dans un camp quelconque. Alors on va retrouver à nouveau Cédric qui est à Isiro. Cédric, bonjour.
Bonjour la radio 4.
Voilà, Cédric, vous avez la parole. Votre point de vue, Cédric.
Oui, j'étais d'abord à l'organisation internationale. Voyant que ce voyage combattant, c'est pour aider la salle, ce n'est pas un travail de nous. D'un grand main, c'est tout à fait difficile. Mais ce que je veux interpréter maintenant, c'est justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le plus le militaire, le ministère de l'autorité, soit une solution à la place.
Voilà, Cédric, on a des petits soucis avec votre ligne. Hein. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de rouler? Vous êtes à bord d'un véhicule?
Non, oui. Un peu en dehors.
En dehors, et vous marchez? Je suis en train d'imaginer que vous êtes en train de marcher.
Non, je suis.
Voilà, on a vraiment des petits soucis avec votre ligne et on capte difficilement. Le temps que cette ligne puisse s'améliorer, on va prendre Justin qui est en Bougimaï. Justin, bonjour. Voilà, Justin, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Voilà, Justin, nous sommes avec vous. Justin, votre point de vue?
Oui, moi, je voulais seulement tout dire. D'abord, remercier ou féliciter sur ces veillants combattants ici. Mais ma préoccupation était de faire connaître que vraiment, j'ai des soucis. J'ai des soucis pour voir que dans notre pays, on ne sait pas quoi de ces événements importants. qui sont succédés pour un père honorer cela. Je donne l'exemple ici en Boujimaï. Nous n'avons aucun rond-point, aucune place publique où on a montré, où on a érigé un monument quelconque qui peut représenter le vaillant combattant. Alors, moi je suggérais, si par exemple, en Boujimaï, il paraîtrait qu'on a donné un quartier vers les montres, qu'on dit les quartiers des anciens combattants, mais qu'on puisse peut-être ériger une maison de référence ou une cité pour ce vaillant combattant ici. Voilà un peu ce que j'avais comme préoccupation.
Oui, ben alors aujourd'hui, c'est vrai, quand les gens parlent que, plaide pour la reconnaissance par la Belgique, donc des mérites de ces vaillants combattants, comment vous réagissez, vous, Justin?
Non, cette reconnaissance-là, c'est en quoi? On les reconnaît en quoi? Seulement dans les actes qu'ils avaient faits, des bravoures qu'ils avaient commis, ou on les reconnaît en les énumérant ou en énumérant leur situation et en condition de vie.
Oui, alors c'est oui.
Justin, le plus longtemps possible.
Oui, on va vous aider, Justin, parce que nous avons suivi le général Sassa, qui est secrétaire général aux anciens combattants, qui a indiqué à cette occasion que l'histoire de ces combattants mérite d'être rappelée aux générations futures pour les bons exemples des disciplines d'abord, de patriotisme et des bravoures dont les soldats de la force publique ont fait preuve au fond. Donc, attendez par là, donc la première et à la deuxième guerre mondiale.
Oui, on aurait comme moi, je suggère qu'il y ait quand même des choses qui peuvent rester visibles. Par exemple, je parle des cités qu'on a donné, des terrains qu'on leur a donné ici. On peut construire, on peut donner des avenues, par exemple, on peut construire des monuments. C'est ce que je veux dire. Mais ici, en Bourgogne, je vous dis, aucune place publique n'indique aucun. Aucun monument pour ce vrai combattant. Voilà ce qui, moi, ce qui m'étonne, ce qui m'indigne.
Merci beaucoup, Justin. On va prendre Patsa depuis Bandundouville. Et il est député provincial. Monsieur Lonora, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Mon point de vue, monsieur le journaliste, c'est pour tout simplement dire qu'il y a un adage français qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le gouvernement congolais, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour ces anciens combattants? On ne voit rien, aucun temps pour ces militaires, pour ces vaillants militaires. Il est de même pour les chefs coutumiers qui ont commencé la lutte depuis 1925, qui n'ont rien laissé, qui ont travaillé durement pour ce pays, ils sont morts sans rien laisser pour ces enfants, pour leurs enfants. Vous avez même des petits camps. L'homme blanc a construit pour le commissaire du district, pour l'administrateur du territoire, pour le chef de secteur, pour les autres, mais pour le chef coutumier, rien. Aujourd'hui, nous parlons de la décentralisation. Nous parlons de l'autonomie financière. Moi, je suis chef coutumier, hein, pas sûr quoi. On parle de l'autonomie financière des provinces. Qu'est-ce qu'on a déjà prévu pour les chefs de groupement, pour les chefs coutumiers? Rien. Ça va passer toujours comme ça passe aujourd'hui. On va léguer ça à l'histoire. On va parler de ces gens-là comme ça, sans aucun souvenir. Ça, vous allez chez les chefs coutumiers, vous prenez la terre, vous construisez.
Oui, vous êtes député, facteur. Vous êtes député, vous.
Mais les propriétaires de cette terre,
ne mélangeons pas les choses. Nous parlons des anciens combattants, ceux qui ont combattu aux côtés de la Belgique. Aujourd'hui, c'est vrai, vous évoquez un cas de la prise en charge des chefs coutumiers. Bon, c'est vrai qu'il y a un autre débat. Mais vous, en tant que député provincial, il y a des édits à proposer, il y a de propositions à faire au niveau de Parlement, ne serait-ce que pour une bonne prise en charge de personnes ou de vaillants combattants, ceux qui sont encore actifs au niveau de l'armée ou ceux qui sont passés pour la bonne mémoire de la génération future. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez déjà proposé au niveau de l'Assemblée provinciale pour qu'on puisse garder en mémoire le travail qui a été fait par ces vaillants combattants?
Oui, mais pour le
moment, parce qu'on pouvait quand même commencer par là.
L'armée, le crédit pour l'armée, ça c'est le gouvernement central, c'est pas la province pour habiller, pour construire, pour les militaires, les camps militaires. c'est le gouvernement central, c'est centralisé.
Non, mais puisque, ce n'est pas la mission assignée à un député. Vous votez les lois, vous contrôlez, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que vous avez déjà proposé pour améliorer les conditions sociales de tous ces vaillants combattants ou encore des personnes qui sont actives dans l'armée et qui font la fierté, donc, bien entendu, à manifester un certain patriotisme ou nationalisme dans ce qu'ils font comme exercice de leur métier?
Ben, j'ai dit que ça centre dans les attributions, dans la compétence
du gouvernement central. Ben alors, maintenant, la question sur la prise en charge ou encore la reconnaissance de ces vaillants combattants par la Belgique, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça?
Oui, mais nos pères, nos ancêtres ont déjà été négligés par la Belgique parce que ce sont des gens, moi je considère comme ces gens étaient tout simplement délivrés pour aller travailler pour la Belgique parce que si vous allez, par exemple, ici en face, à Brazzaville, allez voir, quand vous arrivez en France, ceux qui entretiennent les routes, ce sont les fils et filles de Congo-Brazzaville. Et parfois, les chefs coutumiers, les anciens combattants, ils n'ont pas de difficulté pour avoir de visa pour aller en France, tout ça. Mais ici, en Belgique, un Congolais ne peut pas facilement à entrer en Belgique. Donc les relations, ce sont des relations qui sont peut-être dues à certains intérêts, à certaines situations que nous ignorons, parce que nous avons comme impression que nous avions donné à la Belgique pour ne rien recevoir.
Voilà, merci beaucoup, Pacta, d'avoir appelé devant nous. Nous rappelons que vous êtes député provincial et vous avez tenu, en tout cas, à contribuer dans cette émission. Merci beaucoup. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour,
cher
monsieur.
Voilà, et je crois que le volume est trop bas, là. Si on peut... Jean-Claude, vous pouvez encore parler très fort, parce que là, on vous dit à peine. Oui, allez-y, on va essayer quand même. On va se forcer de comprendre. Voilà, Jean-Claude, on a des petits soucis. Je crois que on va vous relancer peut-être par un autre numéro de téléphone ou encore un autre réseau téléphonique, parce que là, vraiment, vous sortez pas très bien. On ne saura pas vous garder le plus longtemps possible en onde, donc ça fait vraiment très mal aux oreilles. Merci beaucoup. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, honorable Mohamed Boulay, vous êtes ministre honoraire de la Défense. Vous êtes avec nous, vous avez suivi cette série des auditeurs. Comment vous réagissez, honorable?
Oui, je comprends leurs interventions. Je voudrais tout simplement dire que si nous partons d'un certain 11 novembre 1918, donc ça fait 96 ans aujourd'hui, l'élément déclencheur, c'était que l'empereur Guillaume II abdiqua et s'exila le 9 novembre. Et alors les Génois allemands, se voyant vaincus, n'ont pas fait mieux que de demander au gouvernement civil d'entrer en contact avec les alliés pour envisager l'armistice selon le 11 dernier, nous avons fêté le 96e anniversaire. C'est tout à fait normal. Certainement, il y a ici et là des actes posés. J'ai cité les monuments. Et un autre fait aussi, comme ici à Kinshasa, il y a le camp Roi Baudouin, et donc qui était construit uniquement pour ces anciens combattants-là. Ce n'est pas encore suffisant. Comme Dauquin a dit, qu'il y a une certaine discrimination entre les éléments qui ont combattu hier ensemble et que les Congolais n'ont pas trouvé leur compte quant à ce qui concerne la prise en charge. Ça, c'est bien vrai. Je l'ai dit ici que il faudrait que les gouvernements puissent monter, ne pas se fatiguer à monter ces dossiers, de façon à ce que, même à titre posthume, qu'on puisse accorder des avantages au même titre que leurs collègues des autres pays, de la Belgique, les Belges, je veux dire, pour que nous puissions dire, oui, ils ont eu les mêmes considérations que leurs confrères belges.
Et donc, en ce qui concerne les autres qu'on a évoqué ici, mais si on crée des villes, je voudrais dire, j'ai entendu le député provincial de Bandundu intervenir, l'aménagement, les plans d'aménagement du territoire, c'est l'affaire des assemblées provinciales. Et lorsque le premier ministre a pris des décrets ici pour la création l'érection de certaines agglomérations en villes et communes, c'était là l'occasion, parce que les propositions sont venues des provinces, c'était là l'occasion pour se souvenir, donner des noms, baptiser certaines communes, nouvelles communes à créer, au nom de ces anciens combattants, et pourquoi pas des avenirs. Ça, c'est en interne. Et donc, il ne faut pas nécessairement que ce soit le gouvernement central qui puisse tout faire. Au niveau des provinces, il y a des initiatives qui puissent partir de là et entériner au niveau du gouvernement central. C'est bien vrai que tout ça, on doit faire, on ne doit pas dire que parce qu'ils sont morts, on les oublie. Mais il faut, comme quelqu'un l'a dit ici, je crois que c'est l'intervenant des Liens, qui dit que donc dès la deuxième semaine du mois de novembre, peu avant les 11, il y a des manifestations et tout ça, il y a des visites guidées pour certainement rallumer cette flamme-là, pour se souvenir de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et d'autres sont morts loin de là et on n'a pas à retracer pour savoir où est-ce qu'ils ont été enterrés, est-ce que dans quelles conditions ont-ils été enterrés, est-ce qu'il y a des monuments et est-ce qu'il y a des références. Mais quand nous passons pour voir cette exposition-là, il y a moyen de trouver des références. Donc les matières sont là, mais quitte à nous maintenant, quitte en politique et quitte en assemblée nationale ou provinciale ou quitte en membre du gouvernement, que nous puissions nous approprier de ça pour confectionner des dossiers est bancable, acceptable pour des négociations au niveau des États, au niveau de la République démocratique du Congo et la Belgique. Parce que c'est de là la question. Et donc, et surtout aussi au niveau national, intégrer ce problème, ce programme dans le programme de l'histoire de notre pays, en ce qui concerne les forces armées, intégrer ces données-là. Mais pour ça, il faut de la matière. Il faut écrire. Et que ce soit, j'ai cité ici les deux ministères concernés au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Alors, si cela, on dispose déjà de ces bases-là, en ce moment-là, l'enseignement, dispenser l'enseignement deviendrait aisé, et par conséquent, les générations futures retrouveront donc de l'histoire, ils liront l'histoire, ils pourront améliorer et adapter avec les événements du moment. Il ne faudrait pas que la mémoire de ceux qui à leur âme, des gens comme Bouzapier, ou le général Mayele, ou alors le général Mamadou, ou le général Bahouma, pour ne citer que cela, et bien des moyens militaires aussi, pourquoi passer de la police nationale, il faudrait écrire cette histoire-là. À chaque événement, son histoire, il faudrait qu'on lise ce qui a eu passé, ceux qui ont donné le meilleur de même, qui sont fauchés à la fleur de l'âge, et donc, comme le professeur Lucien Bokolo, avec le professeur Ndaïwel, sont disponibles à donner leur expertise, il faudrait que les gouvernements saisissent cette occasion-là pour commencer à faire quelque chose de façon à démarrer effectivement, et ce sera une bonne chose pour notre génération, et pour les générations futures.
Voilà, on va repasser à nouveau de l'autre côté du standard. Il y a Fils qui est à Kananga, Clovis à Mweneditu. Bonjour Fils.
Bonjour JL, bonjour à tous les invités de la radio Kapi.
Votre point de vue Fils.
Moi d'abord, je m'en vais d'abord féliciter la radio Kapi et la remercier parce que c'est une radio qui me met quand même à la ligne. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, nous parlons donc de l'histoire des anciens combattants. Je voudrais dire que non, que depuis que moi j'ai fait mes études, depuis l'école primaire, souvent même les études universitaires, moi je ne savais pas que non, il y a donc l'armée congolaise qui aurait quand même participé à la guerre mondiale. Juste avec cette information, avec ce sujet, je trouve que non, je suis maintenant informé. Si je dis aussi ça, je peux vous dire que non, vu la mauvaise volonté de notre gouvernement et de nos autorités congolaises, qui ne se soucient pas donc des anciens du pays, des gens qui ont fait donc les noms de ces pays, ils ne se souviennent pas. C'était que moi j'ai essayé un peu de déplorer. Mais comme le point de vue que je peux donc avancer est que la chose des anciens combattants là, il était dit que non, on ne change pas l'histoire. Nous tous nous connaissons déjà que non, il y avait eu ça dans ce pays ou bien dans ce monde. Mais aujourd'hui, si nous voyons les conditions que nos militaires vivent aujourd'hui, en tout cas c'est déplorable. Moi je pouvais d'abord demander, voir d'abord l'histoire du général Amadou qui vient de décider d'être tué récemment. Donc c'est un nombre de personnes dont d'abord on peut d'abord s'imaginer des. C'est ça que leur histoire est qu'on ne puisse pas aussi oublier donc leur histoire comme on vient d'oublier donc l'histoire de nos anciens comme ça. C'est un nombre de choses qu'on peut mettre en compte, des choses qui vont avec les générations futures, qu'on ne puisse pas encore oublier. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de M23 dans ces pays. Aujourd'hui, il y a eu quand même une personne qui s'est combattue pour les M23 là, et aujourd'hui, on dit que non, on a combattu et on a gagné donc la victoire.
Oui.
Si on est en train de parler de ça, et à cause d'une personne qui s'est donc donné corps et âme pour combattre donc pour ces pays. Avec ces gars, les hommes là, ce sont les hommes qu'on ne peut pas oublier donc dans ces pays. Ce sont les hommes que les générations futures ne peuvent pas donc oublier. C'est comment je peux demander à notre gouvernement et que il est passé donc des violences, ce qui sont déjà passé, c'est déjà passé, mais qu'ils se souviennent d'abord de notre armée qui aujourd'hui est en train de souffrir
voilà.
Avec des salaires misérables. Il est limité qui fiche 50 000 francs dans ce pays. Quoi il va faire avec ces 50 000? Il faut qu'on puisse d'abord raisonner pour ces militaires-là. Je pense que ça va quand même aller.
Voilà, donc pour vous, au lieu de penser à tout, ces vaillants combattants qui ont fait, disons à l'époque, du succès, il fallait déjà tourner la page et penser d'ailleurs aux conditions sociales des militaires et policiers qui sont encore en vie et qui sont encore actifs. Hein, voilà, donc je crois qu'à un certain niveau, il faudrait quand même qu'on puisse souligner certaines choses et d'ailleurs nous avons reçu pour cela le général Boulet, général à la retraite. Dans cette émission par plusieurs fois pour parler d'ailleurs des statuts, disons des projets de loi portant statut et fonctionnement de la police et pourquoi pas des FARDC. Nous avons eu à débattre des questions sur l'amélioration des conditions de travail, des conditions sociales. Voilà donc nous y reviendrons également pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Merci beaucoup fils pour avoir appelé de Kananga. Clovis, vous êtes à Moineditou. Bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les amis de la radio Capi et à tous les invités qui sont avec vous.
Voilà, vous avez la parole Clovis.
Merci bien Pierre, je suis très content et ravi de savoir que notre pays a une très bonne histoire par rapport à l'armée. Puisque quand j'ai lu cette histoire, je suis vraiment touché. J'ai dit, mais si peut-être que notre armée actuelle a été aussi forte comme celle des années 1916-1985, on pouvait pas seulement se jouer des Congolais. Pourquoi? Parce que nous avons vu que non, les anciens combattants ont servi la Belgique, ont servi la France, pourquoi pas aussi l'Angleterre. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit beaucoup plus regarder ceux qui survivent encore, ceux qui sont en vie actuellement, parce que je pense que les autres sont déjà morts. On ne peut rien faire, mais je pense qu'il y a aussi des survivants de cette guerre-là. C'est le cas avec, j'ai un grand-père ici, Dona Kadima, qui totalise actuellement 94 ans. Il a conduit même le général Bianca, puisqu'il me relate tout. Et comment il a été une fois au Cameroun, en Éthiopie, juste pour cette histoire de guerre, comment il a traversé l'Égypte jusqu'en Palestine. Vous trouvez que non, il a toute une histoire et jusque-là, il n'a aucune prime, il vit aussi comme ça, et c'est grâce à ses enfants, c'est vraiment dommage. Mais moi, je pense que le gouvernement, et surtout la Belgique, doit savoir que l'histoire ne meurt jamais. Ainsi, le gouvernement belge doit s'investir totalement sur les situations des survivants congolais de deux guerres, pour que ces derniers puissent aussi quand même trouver des primes, puisqu'ils ont joué pleinement leur rôle. Et à cela, l'armée congolaise et les autorités congolaises doivent aussi se référer à cette armée-là. Comment ils étaient aussi vaillants, comment ils ont travaillé. Et là, maintenant, Je pense qu'avec les petits groupes armés qui naissent aujourd'hui, demain, à l'est du pays, ils ne peuvent pas encore être là. Mais sinon, si on trouve que non, on ne se réfère pas à l'histoire, je pense qu'on ne va pas faire grand-chose. À ce moment-là, vous verrez que non, on peut parler des guerres, il y a eu des gardes de Sinalou, il y a eu M23, il y a eu des FDLR, et on ne va pas seulement les convaincre. Maintenant, si on se réfère à l'histoire et qu'on voit comment les autres ont travaillé, aujourd'hui même, la commune mère de Kinshasa porte leur nom. C'est vraiment quelque chose de bien. Mais par rapport aux survivants, moi, je demande seulement une assistance. On doit les assister puisqu'en ce moment, les autres sont aveugles, les autres
voilà.
Sont
indigents, merci beaucoup.
Les autres n'ont pas encore de moyens.
Oui, bah, merci
doit
beaucoup.
Seulement voir leur bravo et aussi donner leur prime pour que qu'on puisse voir que non, ils ont participé à l'histoire de ce pays, surtout à l'histoire de la Belgique, qui cherchait à son temps-là le soutien de l'armée congolaise. Et quant à l'armée actuelle, elle doit aussi se référer. Comment cette armée travaille parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs aussi.
Voilà, merci beaucoup, hein, Clovis. A retenu qu'il y a eu 9000 soldats qui étaient tombés sur les champs de bataille, sur les 25000 membres du corps expéditionnaire, hein, donc les Congolais qui sont partis. Alors actuellement, parce que vous voulez les savoir, il y a seuls 4 anciens combattants congolais de la Deuxième Guerre mondiale qui sont encore en vie, et donc 2 gravement malades et 1 devenu aveugle, a relevé donc le président de l'IACO à l'occasion de la cérémonie de la date du 11 novembre, qui a été célébrée tout récemment. Merci beaucoup, Clovis. Jean, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez la parole, Jean.
Ah oui, je suis en train de suivre l'émission. Elle est très intéressante. C'est pourquoi je voulais aussi apporter ma contribution par rapport à...
Voilà, le débat, c'est vrai, tourne autour de la reconnaissance des mérites de ces vaillants combattants, non seulement par l'État congolais, mais également par la Belgique, parce que cette force publique a combattu aux côtés de la Belgique lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Alors, comment vous réagissez-vous, Jean?
Oui, ça c'est vrai. Je connais cela, mais c'est différent. Par rapport au comportement de la Belgique envers ce que la Belgique doit à l'ancienne colonie, à son ancienne colonie. Moi, je pense que notre gouvernement devait quand même apprendre à défendre quand même les intérêts aussi de ses concitoyens, de sa population. Moi, je vis un seul que j'avais vu à l'époque, là où on avait une ferme qui avait participé à la guerre de 14-18, mais qui n'est plus en vie. Mais sa famille est là. Moi, je pense que les députés de notre gouvernement devraient quand même négocier auprès de la Belgique pour que la Belgique paye ce qu'elle doit aux Congolais. Nous parlons de ceux qui ont combattu pendant la guerre de 14-18. Mais il y en a aussi qui ont combattu en 40-45. Mm-hmm. Et qu'est-ce que dit la Belgique aujourd'hui? C'est regrettable. Moi, je pense que la Belgique est de très mauvaise foi. Parce qu'il y a une ambassade qui est ici.
Oui, Jean, pour votre formation, pour célébrer ces centenaires, au niveau de la Belgique, au niveau de la Belgique, il y a eu des cérémonies, notamment il y a des monuments par rapport à tous ceux-là qui ont combattu aux côtés de la Belgique, et parmi ces monuments, les monuments qui ont été érigés, il y a quand même quelques soldats congolais qui ont consulté la force publique, qui ont été honorés par les différents monuments. Je crois que c'est quand même un signe à encourager.
Oui, c'est bien bon. Les monuments, c'est bon. Pour pérenniser peut-être l'histoire. Mais ce que la Belgique doit à ces gens-là, leurs familles, ils sont là. Mmh. Ils ont laissé des enfants, des petits-fils. La Belgique doit payer. Une dette reste une dette. Parce que cette guerre-là ne concernait même pas ni de près ni de loin aux Congolais. Les Congolais sont allés mourir pour rien, pour la cause de la Belgique. Et la Belgique doit payer. Moi, mon père, fille, les conseils de district assistant en 1960. Il avait fait remise de reprise quand les Belges passaient lors de l'insurrection. Il a pu protéger les biens, les sociétés des Belges qui se trouvaient en Bantango à l'époque. La Belgique a écrit. Pendant que papa était en vie, les conseils à l'ambassade de Belgique qui était là, M. Bourgeois, en 1995-96, il l'a dit à notre papa, il a introduit les dossiers, mais un dossier qui est resté lettre morte jusqu'à ce jour.
La Belgique n'a même pas réagi, mais le dossier se trouve bel et bien là.
Mm-hmm.
Donc nous implorons à l'État congolais.
Mais est-ce que vous ne pensez pas, Jean, qu'il faille d'abord que l'État congolais puisse montrer l'exemple, c'est-à-dire reconnaître le mérite de ces vaillants combattants ici, donc même à titre posthume, comme l'a dit notre invité, la famille pouvait en bénéficier, et ce n'est qu'après que la Belgique pourrait suivre l'exemple.
Bien sûr, ce que vous dites là est vrai. Et c'est ça, quel État puisse faire ce qu'elle doit faire pour nous, et puis aller plaider la cause de ses concitoyens auprès de la Belgique, par exemple. Parce que si nous constatons que la Belgique est de très mauvaise foi envers les Congos, il y a un intervalle qui est passé, par exemple. Vous prenez les privilèges qu'ont nos confrères ici en face de Brazzaville envers la France, mais nous n'en avons pas. Comment les Congolais sont traités en Belgique? C'est regrettable.
Oui, disons en Allemagne, il y a même les familles de tous ces vaillants combattants qui ont été reconnus à une certaine époque, et on organisait même, en fait, même l'immigration il n'y avait pas trop de conditions pour les membres des familles de tous ces vaillants combattants. Donc aujourd'hui, si vous allez en Allemagne, vous trouverez vraiment il a été réservé à une reconnaissance mais très méritée. Merci beaucoup Jean d'avoir appelé des Kinshasa. Jean-François, vous êtes historien et vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi.
Bonjour, monsieur Gilles.
Quel est votre point de vue, Jean-François?
Je voudrais intervenir puisque le sujet est si important pour un point beaucoup plus national. Et à ce sujet de cette première guerre, deuxième guerre, nous, les Congolais, il faudra reconstruire d'abord les dossiers, créer une commission bergo-congolaise pour l'étude définitive de ces dossiers, identifier les soldats qui ont pris part et leurs familles, les lieux où ils habitent et tout ça. D'abord, le Congo est intervenu à côté de la triple entente, comprenez la France, l'Angleterre, la Russie, qui s'est ajouté le Japon et les États-Unis. Nous sommes en train, puisque la Belgique a été envahie. Et de toutes les façons, nous avons pris peur lorsque la flotte allemande sur le lac Tanganyika a ouvert le feu sur notre poste à Lukunga. Directement, notre armée est intervenue. Nous avons remporté plusieurs batailles, nous avons perdu beaucoup de têtes, mais curieusement au pays, nous n'avons pas une culture des soldats inconnus. En Europe, aux États-Unis, c'est une cérémonie de chaque jour, les militaires échangent. C'est les lieux où on enterre les généraux. Nous ne savons pas là où on enterre nos généraux. Qui est tout près de sa rivière, qui est tout près de sa maison, même pour le président de la République. On les rejette partout, les monuments flottent un peu partout. Nous ne savons rien où attirer nos présidents, mais il y a quand même l'habitude. Et nous sommes dans une civilisation très avancée. Il y a la culture des soldats inconnus, la culture des lieux saints pour les hauts personnages, les héros que vous appelez. S'il vous plaît, c'est ça qui manque au Congo. On serait en train de faire des choses de futilité unitaire. Et ceux qui interviennent ne savent même pas la cause pour laquelle. Il en est de même pour les parlementaires qui ne savent pas classifier l'importance des motions. J'y interviendrai. Merci.
Je vous en prie, Jean-François, d'avoir appelé les Kinshasa. Nous rappelons que vous êtes historien. Vous avez vraiment tenu à participer à ce débat citoyen. On revient à vous, honorable Boulet. Vous avez suivi cette dernière série. En une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Mais écoutez, j'ai comme l'impression que nous ignorons beaucoup de nos concitoyens. Je m'en excuse. Je ne blesse personne, ne s'intéresse pas à connaître notre histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités. On peut ne pas avoir une bibliothèque très enrichie. Mais du moins, les encyclopédies en ligne aujourd'hui, grâce à cette technologie moderne, fait, donc expliquer sur les portails de la Première Guerre mondiale, on a les éléments qui pourraient certainement donner des lumières sur ce qu'a été le théâtre d'opération de cette guerre, la chronologie. Il a même pour les autres guerres, que ce soit la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi pas les autres guerres internes dans notre pays que nous avons vécu, que nous avons connu, tout cela existe. Et donc, comme il le dit, parce que la gestion quotidienne de notre territoire, c'est l'affaire du gouvernement. Au niveau de l'Assemblée, c'est bien vrai, nous pouvons prendre des initiatives législatives pour certainement faire des propositions de loi, mais tout, je l'ai dit ici, il faut visiter, il faut lire les statuts du militaire des forces armées. On a pris en compte tous ces cas-là. Et donc, ici, il est difficile de dire qu'on construirait, comme un intervenant a dit, des maisons partout là-bas, mais c'est le problème de l'urbanisme, ce sont des questions transversales. Ici, nous avons parlé d'un cas spécifique qui concerne les anciens combattants, qui ne sont ceux de la Première Guerre mondiale. On parle très dur, mais aussi parler des forçats, des mêmes que ceux de la Seconde Guerre mondiale qui ne restent pas. Et ça va être, cette histoire-là doit faire un coup. Et puis la force publique, en passant par l'armée nationale, par les forces armées congolaises, par les forces armées de la République démocratique du Congo, et faire cette histoire-là pour ne pas contenter les uns et mécontenter les autres, et encourager la jeunesse à aimer, et aussi ceux qui voudraient faire la carrière militaire, à ne pas s'inquiéter, à faire d'abord la lecture de notre histoire, de notre armée, tirer les enseignements et se décider volontairement, parce que l'armée aujourd'hui, c'est le service volontaire, ce n'est pas un service de musée comme on avait dit autrefois sous les forces coloniales, et de pouvoir se décider, oui, je veux faire l'armée, le service militaire, et m'attendre que pour le service militaire, que je pourrais prendre ma retraite, mais que j'ai même une vie paisible après ma retraite, et pas une vie vraiment éclochard, comme si je peux me permettre ici. Et tout ça, ça demande de gros moyens financiers, budgétaires, qui doivent être programmés. Et tout ça, c'est de la politique que le gouvernement doit mener à bien pour que petit à petit, on commence de quelque part pour évoluer.
Voilà, merci à honorable Boulet d'avoir accepté notre invitation. C'est par ici que nous mettons un terme à ces débats citoyens. Merci à Paul Badiagama, merci également à Julie Feza Bungunda ainsi que Léonard Moulamba qui ont concouru à la production de cette émission présentée et coordonnée par J.R. Lungembo. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur le tapis.